Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous, c'est la dernière journée de l'hiver et ça paraît, hein? Il tombe de la neige. Oui, demain, c'est le printemps 2026, ça va pas vraiment paraître parce qu'on annonce encore des températures froides hivernale. Et du temps hivernal également. Ouais. Bonjour, celui qui me fait écho, c'est Yvan Deslauriers, le co-animateur de ce matin jusqu'à quoi, 10h30, Yvan?
Oui, j'aime ça être co.
Ben, moi aussi, j'aime ça que vous soyez co. Ça fait longtemps, là?
Éco.
Co et éco.
Oui. Oui, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Là. C'est un arrangement de planète particulier qui fait que je suis dans le coin. Alors,
ça s'est aligné.
Oui, ça me fait vraiment plaisir.
Alors, Yvan, tandis que vous avez le micro, présentez-nous votre sujet. Vous allez nous parler de cyclisme aujourd'hui, entre autres.
Oui, un cyclisme assez particulier parce que c'est sur un vélo...
À main,
oui. Je pense qu'à un moment donné, on appelait ça un quetzal, mais je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça.
Ah.
Alors, c'est un tour du monde assez particulier. Donc, le cycliste en question, je vous le nommerai tantôt, il fait le tour du monde en regardant le ciel dans plusieurs pays.
Ah oui! Alors, il voit toutes sortes de choses dans le ciel. Oui, parce qu'il est couché.
Oui, mais il voit d'autres choses aussi.
Là, mais on le connaît, hein?
Moi, personnellement, je ne le connaissais pas.
Ah, vous ne l'avez jamais eu en entrevue?
Non.
Ah, il me semble que...
Jimmy Pelletier.
Je pensais que vous l'aviez reçu. Moi, je l'ai déjà reçu.
Mais je vous jure que j'ai pris son nom en note.
Bien certainement. C'est quelqu'un...
Pour un certain balado, peut-être.
qui est digne de rencontres,
oui,
d'entrevues.
S'il vient dans notre coin à un moment donné.
Oui, mais ça peut se faire par téléphone ou par Zoom.
Tout
est possible.
On l'a fait en Zoom dernièrement, oui.
Alors, on profite de Monique Quirois qui devra partir un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène. Bonjour, Yvan. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, allô, vous avez l'air tellement de bonne humeur. Alors, est-ce que vous avez dansé ce matin?
Ah oui, un petit peu.
Oui.
Oui, tout à fait. Parce que, bien oui, vous introduisez très, très bien le sujet dont je vais parler. Parce qu'avec l'âge, il semblerait que notre équilibre est moins bon, Hélène.
Oui.
Alors, on sait, Yvan nous le répète, que l'exercice physique permet de réduire le risque de chute. Sauf que il y a seulement 4% des Canadiens de 65 ans et plus qui font 30 minutes d'activité physique par jour.
Ah, c'est très peu, hein?
C'est très peu. Je lisais ce matin, justement, un petit encart de la presse qui disait qu'on n'avait pas besoin de faire nécessairement 30 minutes. Que 5 minutes ou 10 minutes, ça peut suffire, mais il faut le faire avec une intensité moyenne à intense. Bon, mais ça, peut-être, Yvan pourra nous en reparler un jour. Et là, il y a une chercheure qui s'appelle Emma Zia Owen Chen, qui est doctorante en santé et sciences de l'activité physique, ou en fait de l'exercice, à l'Université Concordia, qui a fait une recherche, et en fait, même une recherche, je dirais, active, parce qu'elle nous dit que probablement qu'à apprivoiser des pas de danse, et j'ajouterais même de danse classique, pourrait peut-être remplacer les exercices. Alors, elle nous présente comment cet apprentissage peut améliorer la stabilité posturale et, bien sûr, par conséquent, éviter des chutes qui entraînent trop souvent des blessures.
Merci, Monique. Vous vouliez aussi nous parler, en tout cas, je vous avais invité à le faire parce que hier, j'ai pas eu le temps, puis je pense que c'est digne de mention, le chercheur québécois Gilles Brassard qui a remporté la plus haute distinction mondiale en informatique.
Exactement, le prix Turing. Alors, Gilles Brassard, il est professeur à l'Université de Montréal. Il faut souligner, Hélène, qu'il y est entré à l'âge de 13 ans.
Ah oui, un vrai génie, là. Un surdoué.
Oui, il n'allait pas chercher quelque chose.
Assez original, mais c'est un petit génie. Alors, il partage cette plus grande distinction en informatique avec le physicien américain Charles Bennett. Alors, c'est très amusant, Hélène, ils se sont rencontrés, ils ont fait connaissance lors d'un congrès qui a eu lieu au Costa Rica, mais alors que Gilles Brassard était dans la mer en train de nager, M. Bennett l'a approché et a dit « Vous vous intéressez, je pense, au quantique, et bien moi aussi. » Et puis, depuis ce temps-là, ils collaborent.
Ah, c'est trop intéressant!
Oui, alors il est pionnier de la cryptographie quantique et de la téléportation quantique.
Oh, qu'est-ce que ça mange en hiver puis en été?
Là, en fait, c'est en lien avec les concepts qui fusionnent l'informatique et la physique quantique pour parvenir à un chiffrement de données hors normes. Mm-hmm. En fait, ça encapsule, si je peux vulgariser, là, Monique 101, ça encapsule de l'information et personne peut
découvrir.
Ah oui, oui, ça demeure secret absolu.
C'est un code secret.
Oui. Oui, c'est ça. Ça prend par ailleurs énormément d'énergie pour décrypter comme pour encrypter. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et il faut souligner que le prix Turing s'est considéré comme le prix Nobel de l'informatique et M. Brassard était très heureux d'obtenir cette grande distinction.
Oui, mais il n'ira pas le chercher, hein?
Le non, il n'ira pas le chercher parce qu'il est très anti monsieur de là-bas, monsieur T. Alors, c'est pour leur rôle essentiel dans l'établissement des fondements de l'informatique quantique et à la transformation des communications et de l'informatique sécurisée que l'Association for Computing Machinery, MCACM, a sélectionné les deux scientifiques. Alors, à l'Université de Montréal, on est très chanceux parce qu'on a deux prix Turing, parce que Joshua Benjo a aussi reçu ce prix-là. C'est pas des prix Nobel, mais c'est presque la même chose en informatique.
Alors, Gilles Brassard, je l'ai entendu un petit peu en entrevue, il est assez rigolo. Il était à la journée, il est encore jeune, et celui qui l'interviewait, Jean-Philippe Vautier, avait l'air complètement fasciné par Gilles Brassard. Il l'a même réinvité pour une deuxième partie, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, Gilles Brassard.
Il a les cheveux très longs, il a l'air de vieux et puis...
Oui, tout à fait. C'est assez particulier de gagner le prix Turing. Monsieur Turing, il est devenu célèbre parce qu'il essayait de décoder les messages pendant la guerre.
Oui.
Et ça a amené à la création de l'ordinateur.
Oui, mais d'ailleurs, il y a une pièce de théâtre à ce sujet-là, au Théâtre du Rideau Vert. Oui, un film également. Mm-hmm. Alors, c'est tout à fait intéressant. Je me répète, là, parce que je ne voulais pas dire fascinant. Je ne voulais pas faire mon chantissage. Et j'ai oublié de saluer Mathieu, mais je ne l'ai pas oublié. Là. Vous êtes en face de moi, tout sourire, Mathieu. Il est là. Et aussi, merci Monique, on se retrouve tantôt. Puis merci de nous avoir présenté Gilles Brassard. Je ne savais pas là, toute cette histoire-là qui s'est passée, notamment au Costa Rica. Là, cette rencontre-là avec l'autre chercheur. Et ça les a amenés très, très loin. Et je ne sais pas si Gilles Brassard accepterait de faire une entrevue ici. Moi, je serais peut-être un peu dépassée. Je l'écouterais parler. Je poserais des questions. Puis,
Je pense que oui.
Ouais, peut-être que Monique, ça vous inciterait à venir en studio.
Pardon?
Peut-être que ça vous inciterait à venir en studio si
oui,
Gilles Brassard accepterait.
Il a l'air sous le charme.
Il a l'air très accessible, en tout cas.
Oui, oui. Et puis, en plus, Monique est capable de nous pistonner, peut-être, elle qui a travaillé longtemps à l'Université de Montréal.
Oui, je ne sais pas si on va me reconnaître. Ça fait tellement d'années, Hélène.
Je suis certaine que vous avez laissé votre marque.
Vous êtes inoubliable.
Mathieu, vous allez dire quelque chose?
Je pensais que Monique avait un pavillon à l'université, moi.
Ça viendra peut-être, le pavillon Monique Kerouac.
Bon, Kerouac, peut-être, ça porterait plus. On va confondre avec Jack, alors.
Sur la route, parlant de l'Université de Montréal, il y a Roxane de la Sablonnière, qui est professeure titulaire au département de psychologie qui sera à l'Université de Montréal, qui sera avec nous pour sa chronique d'aujourd'hui. Elle nous parlera de la croissance du fossé idéologique entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, malheureusement. On aura aussi une chronique parasport avec Dominique Tremblay qu'on retrouve avec plaisir, hein, parce que la semaine passée, à cause du verglas, on a été fermé mercredi et jeudi. Et on va retrouver Dominique, comme on retrouve nos collaborateurs du jeudi, Yvan et Monique. Et qu'est-ce qu'on aura également? Des belles chansons puis l'actualité. On y va avec... c'est une reprise. Ça vous dit quelque chose, Nicole Croisé, qui chantait « Parlez-moi de lui ». On l'écoute version 2026.
Puisque là-bas vous sentez ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui, il n'a pas. Yeah.
Parlez-moi de lui. A-t-il des ennuis? Comment est sa maison? Chante-t-il des chansons? Parlez-moi de lui. A-t-il des amis? Ou dites que soit, il perd son bon Parlez-moi de lui, je n'aime que lui. Il m'avait dit patience, depuis c'est le silence. Oh, parlez-moi de lui, comment va sa vie dans ce pays lointain? Est-il heureux
Avez-vous aimé ça?
Oui.
Tibit, parlez-moi de lui avec Marcy, une jolie voix que je ne connaissais pas.
On pouvait faire de la danse en ligne là-dessus.
Ah oui? Ouf, assez rapide. La danse en ligne techno ou disco. Bon, alors, on y va avec les unes. Le propriétaire accusé, incendie mortel dans le Vieux-Montréal, c'est la une de la presse plus d'aujourd'hui, 3 ans après un incendie qui a coûté la vie à 7 personnes. Émile Benamor, le propriétaire de l'immeuble parti en fumée, a été accusé d'homicide involontaire et de négligence criminelle. Il n'est pas soupçonné d'avoir déclenché l'incendie. C'est plutôt l'état des lieux qui est en cause, a expliqué la police de Montréal. La nouvelle a été saluée par des proches de victimes qui espèrent que justice sera rendue. L'accusé est un avocat. Il a été arrêté vers 7 heures par le service de police de la ville de Montréal alors qu'il faisait une tournée de ses immeubles. Il est avocat, il est investisseur immobilier. Il a 63 ans, dis-je bien. Il est visé par 15 chefs d'accusation, dont 7 pour les homicides involontaires de Nathan Cyr, Camille Maheu, Charlie Lacroix, Walid Belkala, Dania Zafar, Sania Khan et Anne Yu. Il est aussi accusé d'avoir blessé 8 personnes en raison de sa négligence criminelle. La couronne ne s'est pas opposée à sa libération immédiate. Ainsi, Émile Benamor a déposé 10 000 $ et s'est engagé à hauteur de 100 000 $. Il devra respecter plusieurs conditions jusqu'à son procès, par exemple en fournissant une copie de ses billets d'avion aux autorités en cas de voyage à l'étranger. Une condition inusitée lui a été imposée. Il devra maintenir en état, entre guillemets, tous ses immeubles et respecter tous les règlements en matière de prévention et de protection contre les incendies. C'est donc dire qu'un constat d'infraction du service de sécurité incendie de Montréal pourrait conduire à son incarcération. On parle évidemment du budget partout aujourd'hui. J'y reviendrai si j'ai le temps, mais pour l'instant, le temps file assez et on en a parlé sur à peu près toutes les tribunes, mais à la une du Devoir, on résume en disant que Girard règle ses comptes. Le ministre des Finances fait fondre le déficit et présente un budget sans cadeaux électoraux, ni fla-fla. Dans son 8e budget. Je m'attends à ce que ce budget soit extrêmement bien reçu. C'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. C'est ce qu'a lancé le ministre Girard en revenant sur la décote subie en avril 2025 par son gouvernement jugé trop dépensier par l'agence Standard & Poor's. Et Michel David, lui, écrit de Parizeau à Girard. Aussi conservateur soit-il, Éric Girard aurait sans doute préféré présenter quelque chose d'un peu plus excitant pour son dernier budget. Cela faisait un peu tristounet comme discours d'adieu. Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a parlé d'une panne d'inspiration. Mais il y a des limites à la comptabilité créative, écrit Michel David. Si cela peut consoler M. Girard, Jacques Parizeau, dont il a égalé le record de longévité aux finances, avait fait pire dans son 8e et ultime budget. De la même façon que la pandémie a heurté les finances publiques de plein fouet, la récession du début des années 1980 avait freiné la légendaire inventivité de Monsieur, celui qu'on appelait Monsieur, Jacques Parizeau, même si ses exposés macroéconomiques demeuraient toujours aussi impressionnants. Et puis, à la une du journal de Montréal, on parle de la coke qui arrive par train, cachée dans des automobiles vers le Québec. C'est un reportage qui sera diffusé sur TVA très, très bientôt. Ce soir, en fait, à l'émission JE, des trains qui transportent des centaines de kilos de cocaïne et de méthamphétamine cachées dans des voitures neuves entrent au Québec plusieurs fois par mois. C'est ce qu'a découvert le bureau d'enquête du journal de Montréal. Yvan Delaurier, c'est à vous. Vous nous parlez d'un tour du monde unique en vélo à main.
Oui, je peux facilement m'imaginer rouler avec cette musique-là dans les oreilles.
Oui, ça pourrait.
C'est très contemplatif. Donc, un tour du monde unique en vélo à main pour un athlète québécois, c'était dans la presse du 16 mars, donc de cette semaine. On parle de Jimmy Pelletier et de sa conjointe Manon Bélanger. Madame Bélanger, elle, est sur un vélo debout. Et M. Pelletier...
Un vélo régulier.
Un vélo régulier. J'ai essayé de trouver un autre mot que régulier.
OK, parce qu'un vélo debout, je me sentais au Cirque du Soleil.
Ah oui, OK. Mais non, un vélo comme on est habitué d'en voir. Et M. Pelletier, lui, sur son vélo couché. Couché sur le dos, il pédale avec ses mains. Ils sont quelques-uns à avoir fait... Est-ce que j'ai dit que c'est Patrick Caisse de la presse canadienne?
Non, là, vous l'avez dit.
Là, je viens de le dire. Ils sont quelques-uns à avoir fait le tour du monde à vélo. J'en ai déjà parlé un petit peu une fois, là, Jonathan Bérois, en tout cas. Mais jamais un humain n'a parcouru la planète sur un vélo à main. Jusqu'à ce jour.
C'est impressionnant.
Oui, beaucoup, beaucoup. J'aimerais... vous avez dit tantôt que vous l'avez peut-être rencontré, mais j'aimerais le rencontrer pour connaître ses méthodes d'entraînement.
Bonne question, oui.
Parce que, de toute évidence, il faut qu'il travaille le haut du corps. Puis on va voir que c'est essentiel. Le Québécois Jimmy Pelletier est parti de Québec le 27 juin dernier pour entamer un incroyable périple de plus de 40 000 kilomètres à travers les 5 continents. Il me semble que de Montréal jusqu'à Vancouver, on parle de 5 à 6 000 kilomètres. Alors, ça donne un ordre de grandeur. Mm-hmm. Dans les 9 derniers mois, l'athlète paralympique a parcouru le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Australie. C'est pas tous des pays plats en passant. En compagnie de sa conjointe Manon Bélanger, du directeur général de l'organisme Adapt-à-Vie, Mario Légaré, et de bénévoles. La petite équipe qui se trouve actuellement en Thaïlande se dirigera ensuite au Maroc avant de retourner en Europe et elle se déplacera ensuite au Moyen-Orient puis en Argentine avant de remonter jusqu'au Québec pour y terminer ce défi sportif sans égal.
Au Moyen-Orient, je ne suis pas sûr, hein?
Ah, de ce temps ici, ouais, c'est...
J'irai pas là.
Ouais.
Il va peut-être refaire l'itinéraire. Ouais.
Je vous parlerai de l'itinéraire si j'ai un peu de temps tantôt. Je suis allé sur son site. C'est vraiment bien fait. On peut le suivre facilement. Il nous dit, on a déjà parcouru plus de 14 000 kilomètres. Dire Montréal, Vancouver, retour et retour encore, trois fois. Et grimper plus de 100 000 mètres. C'est pour ça que je suis préoccupé par son entraînement du haut du corps. Il dit de façon très candide.
Et son horaire aussi, là. J'espère. Il doit avoir des pauses, là.
Oui. Mais non, mais quand on va voir sur son site, là, on sait que ça commence tel jour puis ça finit tel jour. Fait que là, je
très me pose bien coordonné, planifié.
Plein de questions sur la température. Y a-tu des arrêts parce que, je sais pas, moi, son vélo, ouais. Il y a une crevaison, Dieu sait quoi. Enfin, il faut l'inviter.
Ben c'est ce que j'allais me dire.
Il faut l'inviter. Il dit c'est du stock lors d'un entretien avec la presse canadienne. Cela dit, c'est une expérience extraordinaire. Jusqu'à présent, le Québécois de 49 ans passait incognito. Gardez le mot en tête, ça va...
On pense à la chanson de Céline.
Oui. Mais tout cela a changé en Thaïlande, où il a été accueilli comme Céline Dion.
Ah oui?
Oui. On ne savait pas à quoi s'attendre en arrivant ici, mais on s'est fait accueillir comme des rois. La police vient nous chercher à l'hôtel chaque jour.
Pas pour les arrêter.
Non. Et elle va nous escorter jusqu'à la fin de notre séjour. Ça, c'est fantastique.
Eh oui.
J'ai déjà fait ça dans un tour cycliste. Là. Tu t'occupes de rien parce que ta,
traitement royal.
Ta sécurité
est assurée.
Au Québec, ils ont de la misère à me donner une journée. On parle de l'escorte policière. À me donner une journée, ça te donne une idée. Mario Légaré, qui est directeur général de l'organisme Adaptavie, il raconte, lui, que quand on est parti de Bangkok, il devait y avoir 150 personnes. Il y avait des politiciens, l'ambassadeur thaïlandais, l'ambassade du Canada, le chef de la police et le président du comité paralympique thaïlandais.
Tout ce monde-là pour accueillir Jimmy Pelletier.
Oui, puis le suivre, puis ça a passé à la télé nationale et dans les journaux, ils ont mis le paquet. Pelletier, qui est devenu paraplégique en 1996 à la suite d'un accident de voiture, ne s'attendait vraiment pas à vivre une telle expérience. Il dit « La population thaïlandaise est vraiment respectueuse. Je n'ai jamais entendu un klaxon. On roule parfois en plein milieu de l'autoroute, les voitures passent de chaque côté et les gens m'envoient la main. Les policiers bloquent le trafic pour nous. » Je trouve ça gentil, ça me fait dire qu'on fait du bien et que le monde nous respecte. C'est un petit velours de vivre ça après 9 mois. J'ai vraiment de la gratitude. Avant de se déplacer en Australie puis en Asie, Pelletier a établi un record en Europe en parcourant un 8557e kilomètre à vélo à main. La marque précédente était de 8556 km qui avait été établie en 2022 par un Belge qui s'appelle Michel Desmet. Jimmy ne le fait pas pour ça, mais moi, je tiens à le souligner, à indiquer M. Légaré. Il a quasiment doublé la distance depuis. Alors, bonne chance pour battre son record. Et avec les 40 000 km, il va exploser le record. C'est tout un exploit. Pelletier n'en est toutefois pas à ses premiers succès sportifs. Après avoir participé aux Jeux paralympiques de Turin en 2006 en ski de fond, Pelletier a pris une pause. Quelques années plus tard, il s'est fait recruter par l'équipe canadienne de vélo à main. C'est drôle, les gens qui n'ont pas de handicap, ils font ça aussi souvent, le ski de fond puis le vélo. Demandez à M. Harvey, il va vous le raconter.
M. Normand Harvey, vous parlez?
Oui, le père.
Ouais.
Oui. Il a fait les deux, il a été aux Olympiques dans les deux, compétitions.
Discipline.
Merci, c'est ça que je cherchais. Quelques années plus tard, il s'est fait recruter par l'équipe canadienne de vélo à main afin de participer aux Jeux de 2016 à Rio. C'est à ce moment qu'il a décidé de changer complètement sa vie. Un autre sujet d'entrevue. J'étais seul sur le bord de la piscine lors d'un camp d'entraînement à Cuba et je me suis dit que je ne pouvais plus faire ça. J'étais rendu seul avec ma fille après ma séparation. Ça me demandait énormément, donc j'ai quitté l'équipe canadienne. Pouf, comme ça. j'ai décidé de continuer à faire du vélo, mais de redonner au suivant en même temps. C'est là que j'ai commencé la randonnée Jimmy Pelletier qui se déroule chaque année pour amasser des fonds pour Adapte ta vie. En plus de sa randonnée annuelle, Jimmy Pelletier a atteint le sommet du Kilimanjaro en vélo de montagne adapté en 2018, puis a traversé le Canada en 65 jours en vélo à main en 2019.
Un gars de défi, quoi.
Quand il part pour une promenade, attelez-vous. Depuis 10 ans, il a amassé 2,6 millions de dollars pour l'organisme de Québec. Nous sommes une petite fondation avec une petite équipe, mais nous avons du cœur et nous sommes tous inspirés par Jimmy et ce qu'il dégage. Il a remporté la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale et le prix du gouverneur général dernièrement. Il ne le fait pas pour ça, mais c'est plaisant de voir qu'il a une certaine reconnaissance. Avec un peu plus de 25 000 kilomètres à parcourir encore, Pelletier et son équipe ont déjà amassé un peu plus de 225 000 $ sur un objectif de 800 000 $. J'imagine que plus il va se rapprocher de l'Amérique, plus ça va être connu et plus que il va avoir le montant amassé va augmenter. Si vous voulez faire un don, il vous suffit de vous rendre sur le site jimmypelletier.com. Et en même temps, vous allez voir, il y a toutes des petites vignettes de tous les endroits où il est passé. Il dit, en terminant, « Je suis en vélo à main et je fais le tour du monde. Tout est possible dans la vie. Je me lève et je ramasse de l'argent pour une cause. Je ne sens plus le bas de mon corps depuis que j'ai 19 ans. Mais je fonce. Si je peux inspirer du monde, tant mieux. » Alors ça, c'est l'article sur Jimmy Pelletier. Je suis allé sur jimmypelletier.com et là-dessus, on voit, c'est vraiment bien fait. On voit toutes les étapes de son parcours. Et quand Avec des belles couleurs. Et quand on pèse sur un... Par exemple, j'ai regardé l'étape 12, puis là, je dis ça, puis l'étape 12 n'apparaît pas. Ça va être du 1er février au 23 juin 2027. Fait que c'est vraiment très, très structuré. Puis il y a une description du
parcours. Il revient quand?
C'est l'étape suivante. Donc, il va revenir septembre
2013.
Oui, étape 13.
Il n'est pas superstitieux. Yvan, on l'a reçu au moins 3 fois. Mathieu a fait des recherches. Il y a Le quotidien des quotidiens, l'émission que vous écoutez en ce moment qui avait ce titre-là à l'époque, là, en 2019, en janvier. Ensuite, au quotidien, le 3 avril 2025. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois en entrevue. Et puis, il y a Jean-Marie Lapointe qui l'a reçu dans le cadre de porte-parole le 10 mai 2024. Ça fait quand même longtemps. Ça vaudrait la peine de le réinviter. Merci, Yvan.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. Baby, you're just in motion for my emotions, crashing my deepest crush. When the lights dim down, buzzing in slow motion, I like the way we touch. Yeah, the watch on your wrist says that any minute we'll start making love. When the lights dim down, buzzing in the distance, I'll never get enough of the way we touch. The way we touch. The way we touch. The way we. The way we. Sweat drips down from the rim of the drink to the glass on the tabletop. Your gaze on let go, my heart echoes. Will the tension drop? The watch on your wrist says that in a minute we'll start feeling stuff. And the lights dim down, buzzing in the distance. I'll never get enough, oh baby. I'm rationalizing against all the signs of my body. Time we met, it was holy. And now everything's
Charlotte Cardin et sa chanson « The Way We Touch ».
Une chanson dansante pour vous, Monique, et pour tous ceux et celles qui aiment beaucoup Charlotte Cardin, parce que vous allez nous parler de la danse qui permet, comme vous le disiez en introduction, d'améliorer l'équilibre et de réduire le risque de chute chez les femmes âgées. Pas chez les
oui.
hommes?
Ben, ça a été fait, l'expérimentation a été faite auprès de femmes âgées, mais je me disais, il y a bien des hommes qui pourraient aussi en profiter.
Mmh.
Alors, comme je le disais en présentation, c'est la doctorante en sciences de la santé et de l'exercice à l'Université Concordia, Emma Zia-Owen-Chen, qui s'intéresse à l'élaboration de programmes d'entraînement à l'équilibre amusant, soulignons, et accessible sous forme de cours de danse offerts en ligne et non pas de danse en ligne offerts en ligne, n'est-ce pas?
C'est deux choses. Moi, oui, ça aurait
ça
pu aussi.
Plus.
Mais
non,
danser
mais
en
oui,
ligne,
oui, oui.
Je suis tout seul dans son salon, c'est plat.
Oui, danser non, seul, c'est pas la danse en ligne, c'est vraiment sur le médium,
oui.
probablement de YouTube. Alors, la danse peut être une façon de faire de l'exercice sans s'en rendre compte, en fait. Plusieurs études ont démontré que la danse favorise les relations sociales, quand on les fait en groupe, bien sûr, un effet positif sur l'humeur et les fonctions cognitives, et tout en améliorant la mobilité, l'endurance et la marche. C'est aussi un excellent moyen de travailler son équilibre parce que l'apprentissage des pas de danse exige une grande précision dans les mouvements, ce qui permet de renforcer la proprioception, c'est-à-dire la perception des mouvements et de la position du corps dans l'espace. Alors, ça peut aider aussi à améliorer ou à maintenir la stabilité posturale. La stabilité posturale, vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est, mais c'est la capacité à rester debout et à contrôler la position du corps dans l'espace. Elle repose sur les systèmes sensoriels et moteurs. Alors, d'abord, la vue permet de repérer les obstacles potentiels ou les risques de trébuchement. Deuxièmement, le système cochléo-vestibulaire de l'oreille interne contribue au sens de l'orientation et de l'ouïe. Vous vous demandez peut-être, Hélène, qu'est-ce que c'est que le système cochléo-vestibulaire? Eh bien, c'est l'ensemble anatomique et fonctionnel de l'oreille interne qui est responsable de l'audition, cochlée, et de l'équilibre vestibule. Et enfin, le troisième, c'est le système somatosensoriel qui comprend le sens du toucher, de la douleur, de la température et de la position du corps, permet donc ce dernier de percevoir les surfaces sous les pieds. Une fois ces signaux sensoriels parvenus au cerveau, ils sont triés, puis la réponse motrice appropriée est sélectionnée pour être exécutée par notre système musculo-squelettique. Avec l'âge, ben, la stabilité posturale diminue en raison des changements dans les systèmes sensoriels. On mesure ce déclin chez quelqu'un en lui demandant de se tenir aussi immobile que possible, puis en observant ses mouvements et son balancement. Alors, si une personne se balance beaucoup, alors debout, en studio, là, levez-vous et puis mettez-vous
en
position stable. Alors, si vous vous balancez beaucoup, on considère que vous avez peu de stabilité et que vous êtes plus à risque de chute. Alors, les recherches
menées...
Mais
c'est quoi la position qu'il faut adopter?
Il faut être debout.
Ah, d'accord,
tout
oui.
Tout simplement, regardez droit devant vous.
Okay.
Et puis, vous allez voir si vous oscillez sur vos deux pattes. Si ce n'est pas le cas, si vous ne balancez pas, ben vous avez moins de risque de chute.
Ah, il n'y a personne qui oscille ici.
Ah, ben c'est très bien, bravo. vous devez être en forme.
On peut s'asseoir?
On peut vous... Oui, rassoyez-vous. Alors, les recherches menées sur différents cours de danse donnés en présence ont systématiquement démontré une amélioration de la stabilité posturale et une réduction du risque de chute. Toutefois, ces cours ne sont pas accessibles pour tout le monde. Il y a de nombreuses femmes âgées qui sont confrontées à des obstacles qui les empêchent de faire de l'exercice. Bon, pour en nommer quelques-uns, le manque de moyens de transport, peut-être le rôle d'aidante à domicile ou l'inaccessibilité des installations sportives. De plus, les professeurs de danse spécialisés se trouvent plutôt dans les grandes villes. Donc, cours de danse en virtuel, ces cours-là peuvent réduire ces obstacles et être plus accessibles pour les personnes âgées. Les recherches de l'étude d'Emma Xiaowen Chen démontrent que les cours de danse virtuelle améliorent la stabilité posturale, l'équilibre dynamique et la force des mollets chez les femmes âgées. Dans le cadre de son projet, l'équipe de recherche a offert sur Zoom des cours de 75 minutes inspirés du ballet moderne, deux fois par semaine, pendant 12 semaines, à des Montréalaises de 65 ans et plus. Alors, chaque cours commençait par un échauffement de 15 minutes qui était suivi de pliés. Vous pouvez vous relever si vous voulez. Alors, vous levez, vous écartez un peu les pieds, peut-être à la largeur de vos épaules, et vous pliez les genoux et vous vous relevez. Vous pouvez aussi, ça incluait aussi, des tendues. Alors, debout sur une jambe, on tend l'autre, on revient en position stable, on tend la jambe opposée. On fait aussi des enchaînements de
balancier. On le fait, hein?
Oui, oui. Puis ça
on fait tout.
Toujours?
Oui, ça va. Mais on n'est pas encore tombé.
On n'est pas tombé.
Oui, ben, je ne voudrais pas être responsable de blessures sur le lieu de travail, des blessures professionnelles. Alors, le troisième, c'est des enchaînements de balancier. Donc, déplacement sur un rythme de valse, par exemple. Enchaînement de style de danse moderne à la Martha Graham, là, qui met l'accent sur le redressement après une chute ou les formes arrondies de la colonne vertébrale. Et puis, finalement, le retour au calme avec des étirements assis.
Ah, on a déjà du plaisir.
Oui, ben, tant mieux. Ces exercices ont été choisis parce qu'ils mettent l'accent sur le transfert de poids, l'équilibre sur une jambe, le fait de décentrer le corps, ainsi que la concentration des muscles des jambes et du tronc. Bon, pour l'exercice avec la chercheure et l'équipe, en fait, ben, il y a un assistant qui était présent sur Zoom afin d'apporter un soutien technique et de veiller à la sécurité des participantes, ce qui n'est pas le cas si on est tout seul devant son ordinateur pour faire la danse chez soi. Mais bon, avant le premier cours, à mi-parcours et à la fin de l'étude, les participantes ont passé des évaluations en personne de la force musculaire des jambes, de l'équilibre dynamique et de la stabilité posturale. Ben, en l'espace de 6 semaines, c'est quand même pas beaucoup, là, on a pu observer une réduction du balancement latéral debout, une amélioration de l'équilibre dynamique. Les muscles de leurs mollets avaient également gagné en force, ce qu'on a évalué par le nombre de levées des talons effectuées en 30 secondes. Alors, vous pourrez faire aussi l'exercice.
Vous nous motivez, Monique, juste par votre ton.
Je suis tellement heureuse de ça, Hélène.
Ah, ouais.
J'ai un petit peu mal à mon petit cœur de Canal M de pas être avec vous. Ce serait encore plus rigolo.
Ah, c'est sûr. Hey, c'est drôle parce que Mathieu vient de nous envoyer une photo de Yvan et moi en studio en train de faire les exercices. Oh, j'aurais pas dû le dire. Je voulais l'envoyer, mais.
Ben oui, ben envoyez-le-moi quand même. Alors, ces améliorations peuvent se traduire par une aisance accrue dans les activités quotidiennes qui nécessitent un transfert de poids, comme la marche, la descente d'un trottoir, même d'un escalier, ou même des tâches ménagères, comme passer le balai. Les cours de danse en mode visuel peuvent jouer un rôle important pour toucher les personnes qui pourraient être laissées pour compte. Pour les personnes vivant, entre autres, dans des régions isolées, les aidants qui ne peuvent s'éloigner trop longtemps de leurs proches ou les personnes âgées qui ont peur de marcher, par exemple, dans les rues faire glacer en hiver. Les programmes en ligne sont accessibles et offrent de nouvelles possibilités de, bon, socialisation, je le mettrai entre guillemets, là, ça dépend si on le fait en groupe. On pourrait se réunir des voisins ensemble, par exemple, et d'activités physiques. Alors, j'ai cherché, Hélène, en ligne, des activités, justement, qui nous permettent de faire ça avec plaisir à la maison. Alors, j'ai trouvé, si vous allez sur YouTube et vous faites exercice au pluriel d'équilibre pour seniors, / sanitas entraînement, ces deux dames, c'est en français, et elles font des pas de danse classiques pour nous amener jusqu'à des pas de tango en 14 minutes.
On n'est pas obligé d'être senior pour suivre ces séances-là.
Absolument pas, parce que je pense que c'est une façon de se détendre aussi, honnêtement, je me suis amusée à le faire. Et puis, justement, à développer une certaine aisance, même si on n'a pas de problème d'équilibre, je pense qu'on peut prévenir plutôt que
guérir. Oui.
Il y en a un autre qui s'appelle Senior Balance Exercises. c'est 10 minutes, c'est en français. Si vous faites Senior Balance Exercise Joe Deluc, Joe J-O, nom de famille D-E-L-U-K. Alors, c'est des exercices d'équilibre, 10 minutes. On peut le faire même avec une chaise ou une marchette ou avec en s'appuyant sur un mur. C'est vraiment amusant aussi.
Vous, les avez, vous l'avez testé aussi?
Oui.
Grosse, super. Grosse chronique.
Oui.
Oui, j'étais bien occupée. Alors,
super recherchiste.
Alors... Mais je ne pouvais pas
mais non.
Quelque chose quand même. Dans l'article que j'ai lu, il y en avait un, mais ça s'appelait, écoutez, Dance Balance Step Speed Up Class.
Oh.
C'était trop vite. Okay. Mais c'était vraiment amusant à regarder. Alors même si plusieurs prennent des cours en personne, il ne faut pas oublier les avantages de l'offre en ligne. Inviter le studio de danse à la maison, ben ça permet d'améliorer son équilibre. J'ose espérer s'amuser comme vous l'avez fait et bien sûr assurer et améliorer la qualité de vie.
Ah, oui.
Alors voilà, chers amis, c'était la danse à la maison.
Alors pour quelqu'un qui n'a pas le temps de se déplacer ou qui ne veut pas se déplacer ou qui ne peut pas se déplacer, c'est merveilleux, oui. On peut faire ça à partir de la maison.
Oui, oui.
Exactement. Puis si, comme je disais, on a une voisine qui s'ennuie aussi, elle peut venir à la maison puis on fait ça ensemble.
Oui, oui. Si on s'entend bien avec notre voisine, pourquoi pas?
Ben,
ou même
pas?
Si on ne s'entend pas.
Ah ben,
ou son voisin.
On peut peut-être rétablir des...
Ah oui, c'est vrai! Ben, merci beaucoup, Monique. Puis c'est là-dessus qu'on se dit au revoir et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, oui. Bonne
merci
fin d'émission.
Merci pour tout. Vous aussi. Ben, vous, bonne journée.
Merci.
On sent tout le plaisir qu'Étienne Copé a eu à reprendre le répertoire, en tout cas une partie du répertoire, parce qu'il est immense, le répertoire de succès de Joe Dassin, sur son album, un album hommage à Joe Dassin, c'est le titre. Ici, avec le petit pain au chocolat, c'est ce qu'on appelle une appropriation vraiment réjouissante et réussie.
Gustative.
Oui, oui, qui donne le goût de manger du chocolat. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, le Salon du chocolat, je ne savais pas que ça existait, mais il existe bel et bien et il aura lieu à partir d'aujourd'hui, 19 mars, et ce jusqu'au 22 mars à la gare Windsor, en plein centre-ville de Montréal. Et c'est Jean-François Cacou qui est le président de ce salon-là, qu'on salue. Et il nous parlait donc de ce salon qui est rempli d'activités sur le site montrealsalonduchocolat.com. Vous allez avoir toutes les informations, tous les horaires, parce qu'il y a énormément de monde impliqué, des choco-conférences et évidemment des dégustations à ce Salon du chocolat. Juste le mot, hein, ça nous fait déjà saliver. Qui n'aime pas le chocolat? Je connais personne qui n'aime pas le chocolat. Vous
Ma
en connaissez?
Ma n'aime pas, ouais.
Hein?
Mais je pense que quand j'ai tout pris l'amour du chocolat de la famille, fait que je pense que...
Ah oui!
Je pensais que ça se multipliait, ça.
Non. Bien oui! Mais moi, c'est le chocolat blanc que j'aime pas, mais,
c'est même pas du chocolat.
Mais
voilà.
C'est pas du chocolat. Mais c'est bon, pareil.
Ah, vous aimez ça? Oui, ah, il me semble que ça goûte le Crisco.
Je vais continuer à aimer ça pareil.
Bon, alors, cela dit, Yvan et Jimmy Pelletier, vous avez une information supplémentaire?
Oui, vous me demandiez à quel moment il terminait son 40 000 kilomètres. Il va terminer ça entre le 25 et 27 juin 2027.
OK,
donc,
pas cette
juin
année.
Donc, pas
le
s'en vient,
non.
L'autre après, non. Dans le cadre de la randonnée Jimmy Pelletier, qui va marquer la 11e édition de cet événement. C'est dans le coin de Québec, ça.
Merci beaucoup. Vous nous parlez maintenant de la CEPAC qui va reprendre la gestion des opérations du secteur est du Mont-Sainte-Anne.
Oui, juste avant ça, je vais embarquer
ça,
là-dessus.
J'aime ça.
Hein?
Juste avant ça, oui.
Oui, oui. Non, c'est pour faire le lien avec, avec Monique. On me demande, à cause des chroniques qu'on a faites depuis des années, on me demande, ça prend combien de pas par jour pour être en forme, tout ça?
Ah oui, on vous pose souvent la question?
Ben, pas si souvent que ça, mais oui, ça arrive. Puis moi, je fais juste dire, arrêtez de compter. Faites juste aller marcher. Sortez de votre sofa, dansez en ligne, allez marcher.
Bougez.
Faites du jardinage, puis arrêtez de compter.
Moi, j'ai arrêté de compter, mais quand on regarde ce qu'on a fait au quotidien...
Ah oui.
Bon, des fois, on n'est pas nécessairement fier de soi, mais quand j'étais en vacances, là, à la fin de la journée, je regardais et je disais, waouh, 14 000 pas, 11 000 pas! Là, c'est quand même encourageant.
Oui, oh, c'est
mais c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre cette pression-là nécessairement.
Non, puis fais juste sortir,
avoir du fun.
Sortir du sofa, ouais. C'est tout.
OK. Alors, la CEPAC, c'est un lien avec le ski de fond, là, ça.
Oui, 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 parce que on sait qu'au Mont-Sainte-Anne, il y a eu toutes sortes de difficultés de gestion dans la dernière année, en particulier avec même la montagne de ski alpin. On sait que les équipements de remontée, il y a eu des accidents, il y a eu toutes sortes d'affaires. Alors, après des années de mécontentement et de nombreuses critiques, la clientèle s'attend à des améliorations, mais également à une baisse de prix en harmonie avec les normes des autres établissements de la CEPAC. On parle du ski de fond, là, je ne parle pas du ski alpin. Le secteur S qui deviendra ainsi le parc du Mont-Sainte-Anne et les défis sont nombreux. On dit que les équipes sont à pied d'œuvre pour organiser l'offre de ce 47e établissement géré par la CEPAC, parce que la CEPAC a pris possession de l'ensemble de la montagne. Donc, c'est le dernier né d'établissement du réseau de la CEPAC. C'est une année de transition. La CEPAC promet d'apporter des ajustements nécessaires en cours de route, mais pour cet été, pour les sentiers de marche, il n'y aura rien de spécial. Mm-hmm. Ça va vraiment commencer l'hiver prochain. C'est un endroit pour le ski de fond. Moi, je ne suis pas un adepte du ski de fond, mais j'en ai déjà fait dans ce coin-là. Il y a eu des gens célèbres qui en font dans ce coin-là.
Tu as parlé de Normand Harvey tantôt.
Oui, oui, c'est à lui que je pensais. Ça va vraiment être intéressant. Le problème des derniers hivers, c'est que la neige, il y a eu beaucoup de difficultés avec la neige. Donc, pour faire du ski de fond...
Mais pas cette année, en tout cas?
Non, pas cette année. Alors, au Mont-Saint-Anne, dans ce coin-là, c'est vraiment un endroit fantastique. Alors, je suis bien content qu'ils vont se reprendre en main et offrir une offre de service intéressante.
La CEPAC est la Société des établissements de plein air du Québec. Mm-hmm. On reste dans le plein air et puis on commence à penser à l'été prochain. On va commencer par passer le printemps, par vivre notre printemps, si on peut en avoir un. Et puis l'été prochain, ça s'en vient quand même. Et vous avez, Yvan, des suggestions de destinations insolites et ou méconnues que vous avez trouvées en quelque part. Là, espace.ca, je pense.
Oui, c'est mon
site chouchou.
Mon site chouchou, oui, c'est une belle façon de le dire. C'est le moment de l'année où on commence à penser à où est-ce que j'irai bien cet été et tout ça. Alors, voici des suggestions. L'archipel de Mingan, êtes-vous déjà allé?
Non.
Moi non plus. Et pourtant,
Mathieu, oui.
Oui. Et c'est sur la côte nord, près d'Havre Saint.
Tous les boulots de la rivière Mingan?
Oui, tous les boulots s'en rappellent.
Mais moi, je me rappelle pas d'y avoir été.
C'est près de Havre-Saint-Pierre.
Excusez, mesdames et messieurs.
Et on retrouve un archipel étonnant qui possède la plus grande concentration de monolithes du pays, donc des rochers en fleurs et tout ça.
Donc, des rochers en fleurs.
Bien, c'est parce que au Nouveau-Brunswick... non, au Nouveau-Brunswick, il y a ce genre d'affaires-là. Enfin, fait que peut-être que j'exagère, je ne sais pas. Ensuite, à Sainte-Anne de Sabrevoie, vous voyez que on peut se tromper facilement. Sainte-Anne de Sabrevoie, ça c'est en Montérégie.
C'est pas loin de Montréal.
C'est pas très loin. Il est possible de dormir dans une hutte. Jusqu'à présent, ça a l'air ordinaire.
Ben, j'ai jamais fait ça. Moi, dormir dans une hutte, c'est pas si ordinaire que ça.
À l'allure polynésienne.
OK.
On co-anime-tu un moment donné?
Ben, c'est ce qu'on fait, là.
Oui, c'est ça. Donc, une hutte à l'allure polynésienne, à même la rivière Richelieu. Puis, je vous fais un petit...
Ah oui!
Oui, c'est vraiment...
C'est vrai qu'on se croirait en Polynésie.
Quelque chose d'autre, hein? Ensuite...
Mais avec un plan d'eau différent. Oui, vous regardez l'heure, hein?
Oui, puis je pense que j'arrête.
Ah, déjà? Mais non, il reste une minute.
OK. Oui. Alors, je peux parler de la route des bières de la ville aux routes des Bleuets. Ça, c'est 200 kilomètres.
La bière et des Bleuets.
Oui, puis je sais qu'il y a des firmes qui ne vous transportent pas. Ils transportent votre matériel.
Des firmes?
Oui, oui. On peut louer du navettage, j'imagine. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils prennent votre matériel, vous roulez, puis ils amènent votre matériel où est-ce que vous allez arriver. Fait qu'il y a... Puis ils parlent même pas des îles de la Madeleine. Fait que...
Mais là, vous venez de nous en parler. Puis
oui.
J'ai l'impression que c'est votre destination vacances, les îles.
Mettons.
Parce qu'une tradition, un rituel.
Mettons.
Chez les Lauriers-Lalande. Et en parlant de Lalande, qui est votre conjointe qu'on aime beaucoup, qui anime justement Canal M, soit dit en passant, c'est son anniversaire samedi. Alors Marie, si vous êtes à l'écoute, on vous embrasse et on vous souhaite un bon anniversaire d'avance.
Je lui dirai.
Ben Yvan, merci beaucoup. Merci aussi à Monique. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Merci beaucoup d'être à l'écoute d'Au quotidien. On est ensemble encore une demi-heure et là-dessus, on s'en va joindre Dominique Tremblay. Très heureuse de vous retrouver, Dominique, là, parce que la semaine passée, vous deviez être là plus souvent, mais à cause du verglas, bien, la station est restée fermée mercredi, jeudi.
C'est des choses qui arrivent.
Et oui, ce sont des choses qui arrivent, justement. Et aujourd'hui, vous faites une sorte de retour sur les Jeux paralympiques de Milan-Cortina qui sont finis, ça fait maintenant une semaine. Est-ce que vous vous ennuyez?
Ben, c'est tranquille. Quand il n'y a pas des événements sportifs qui se déroulent de 4 heures le matin jusqu'à 2 heures l'après-midi, on essaie de trouver d'autres choses pour s'amuser. On travaille, on se tient occupé, mais c'était vraiment le fun là, pendant le mois là, de compétition sportive avec des Jeux olympiques.
Et vous étiez vraiment à l'écoute, Dominique, de 4 heures du matin à 2 heures l'après-midi?
Souvent, je me levais plus de bonne heure que prévu pour regarder certaines compétitions. Le curling était super intéressant aux Jeux paralympiques. Puis évidemment, il y avait beaucoup de compétitions là, qui commençaient de très bonne heure aux Jeux olympiques aussi. Donc, le sommeil était déficient pendant la fin du mois de mars, la fin du mois de février, du début du mois de mars. Bon. Donc, on récupère tranquillement.
Parfait. Est-ce que vous pouvez faire une sorte d'analyse des résultats des athlètes canadiens maintenant qui sont de retour à la maison et qui profitent aussi, j'espère bien pour eux, de quelques semaines de congé?
Oui. Le Canada a terminé avec 15 médailles, 8e au total des médailles, mais 15e au total des médailles d'or avec seulement 3 médailles. Il y a eu plus de pays qui ont remporté des médailles d'or aux Jeux paralympiques à comparer à 2022 à Pékin en Chine. Le Canada, à ce moment-là, avait gagné 25 médailles.
Oh, ça fait 10 de moins cette année.
10 de moins, là. Et 8 d'or de moins. Il avait gagné 8 médailles d'or qu'il avait gagné à Pékin, comparé à seulement 3 à Milan. Donc,
décevant?
Ça va... Un peu décevant, mais pas surprenant à comparer à ce qu'on a vu aux Jeux olympiques. Le nombre de médailles gagnées par le Canada aux Jeux olympiques aussi était en pente descendante. Je pense que là, on vient d'atteindre, on a connu un pic en termes de médailles suite aux Jeux paralympiques de Vancouver et olympiques aussi, là, d'ailleurs. À la suite des Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Et là, on est en train de retomber de l'autre côté de la pente ou de la côte qu'on avait réussi à monter pour être dans le top 3 des médaillés. Il va falloir faire attention parce que en ce qu'ils font pour les prochains Jeux paralympiques là, dans les Alpes françaises, l'équipe de paraski de fond était quand même assez vieille. Mark Arends, qui a gagné plusieurs médailles dans sa carrière et dans la trentaine assez avancée, probablement que les Jeux de Milan étaient sa dernière paralympiade. Même chose pour Brittany Hudak, qui a gagné une médaille de bronze à Milan. Donc, on devra reconstruire là, l'équipe de ski de fond. Quoique Nathalie Wilkie, qui a gagné deux médailles d'or, devrait être encore là, même si elle est dans le milieu de la vingtaine. Et aussi l'équipe de hockey, para-hockey, qui a encore... ramasser la médaille d'argent.
On aurait aimé ça qu'ils gagnent la médaille d'or.
Oui, ça aurait été vraiment quelque chose de très bien, mais l'équipe américaine est vraiment au-dessus de tout le monde. Il va falloir changer quelque chose dans le recrutement aussi, s'entraîner, avoir une équipe un peu plus rapide. Et on travaille déjà là, sur les quatre prochains Jeux. L'équipe du Québec, qui a fait beaucoup de développement au cours des dernières années, a déjà en fin de semaine un camp d'entraînement pour préparer le futur. Fait qu'au cours des prochaines 4 ans, on va voir ce que ça va donner pour les prochains Jeux paralympiques d'hiver.
Dominique, quelles seront les retombées des Jeux de Milan?
Je pense que, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été bien. Ça a été des très beaux Jeux paralympiques. Mais comme un peu partout, là, à chaque fois qu'il y a un gros événement dans une ville, les améliorations aux infrastructures les rendent beaucoup plus accessibles pour les personnes handicapées et des investissements financiers importants ont été faits à Milan. Par exemple, ils ont adapté plusieurs stations de métro. Ils ont aussi adapté des musées et des sites touristiques. Mais la grosse différence, c'est aussi peut-être la perception que les gens ont des personnes handicapées. Et c'est ça que les Jeux paralympiques permettent de faire, où on s'ouvre les yeux là, sur des performances de personnes handicapées qui sont capables de faire de très grandes choses. Et puis de voir des personnes comme, Nathalie Wilkie, par exemple, gagner des médailles d'or avec un bras qui fonctionne pas très bien, ou les voir jouer sur une luge, sur la patinoire, qu'ils sont capables de faire en passant la rondelle là, avec deux petits bâtons. Donc, ça ouvre les yeux pour que toutes les choses soient possibles. Et en plus, plus tard dans les quand on retourne dans les villes, ben on voit des choses intéressantes. Par exemple, moi, quand j'étais aux Jeux paralympiques d'Athènes, ils ont rendu l'acropole accessible avec un funiculaire qu'on montait le long de la montagne pour se rendre au-dessus de l'acropole. Et ça, c'est des choses qui sont super intéressantes, super le fun. Ils ont fait la même chose à Pékin pour la muraille de Chine. Donc, on peut se promener maintenant en fauteuil roulant sur la muraille de Chine, sur quelques cent mètres. Donc, c'est des choses qui s'améliorent et l'imperception aussi des gens, comme j'ai dit tantôt, c'est des bonnes choses.
Alors, maintenant que les Jeux Milan-Cortina, les Jeux paralympiques de Milan-Cortina sont derrière nous, les athlètes vont continuer à performer un petit peu partout à travers le monde.
Et oui, là, on vient d'éteindre la flamme pour les Jeux d'hiver. On pense déjà aux Jeux d'été qui vont avoir lieu à Los Angeles en 2028. Les qualifications ont déjà commencé. Il y a déjà eu des compétitions des Coupes du monde en athlétisme et en natation. Il y a aussi des championnats du monde en goalball qui vont avoir lieu cet été. Il y a aussi du basketball en fauteuil roulant qui va avoir le championnat du monde, le rugby en fauteuil roulant et le boccia aussi des championnats du monde. Donc, ça n'arrête pas. Il va y avoir des compétitions. On va avoir toujours plein de choses à pouvoir se parler au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années pour préparer des Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028.
Pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup, Dominique, et reposez-vous bien, là.
Oui, bonne semaine, au revoir.
Bye.
J'ai perdu trop de temps à tenter de me faire aimer par des gens qui me voyaient pas. J'ai perdu trop de temps à tenter de me faire aimer par des gens qui me croyaient pas. J'ai perdu trop de temps à juste tenter d'exister pour des gens qui aujourd'hui me manquent pas. Et pendant tout ce temps, j'ai manqué tellement de grands bonheurs étoilés dans des yeux que je voyais pas. J'ai manqué tellement de grands hymnes déchirés dans des voix qui comptaient pas. J'ai manqué tellement de grands geysers de beauté qui demandaient juste plus de temps avant d'exploser.
Émile Proulx-Cloutier et sa chanson Temps perdu.
Pourquoi vous riez, vous?
Ah, parce que je suis heureux, si vous voulez.
Ah, mais tant mieux. C'est vrai, on est dans l'indice du bonheur. Il faudrait, à un moment donné, que Roxane vous intéressiez à la chose. On en parle dans la presse. Je ne sais pas si vous l'avez lu aujourd'hui, Roxane de la Sablonnière. On parle des endroits où les gens sont les plus heureux. Et c'est la Finlande qui arrive première. Mais le Québec est quand même dans le palmarès, puis le Canada également. Mais le Québec est au-dessus du Canada, si on sépare les provinces. Alors, c'était « Temps perdu » par Émile Proulx-Cloutier. Lui qui est de retour demain au Théâtre Maisonneuve. Il était en spectacle, c'était jeudi dernier, et puis il va partir aussi en tournée. C'est en fait des supplémentaires parce que son spectacle connaît énormément de succès. C'est « Ma main au feu » solo. Il est seul sur la scène. Il a débuté cette tournée en janvier 2025 avec plusieurs spectacles à guichets fermés, et ça se poursuit dans toutes les régions du Québec avec plusieurs supplémentaires. Comme je vous le disais, le 20 mars, pour la première journée de printemps, à la Place des Arts, ensuite au Théâtre Granada de Sherbrooke le 1er mai, à Saint-Jérôme le 8 mai, à Repentigny le 23 mai au Théâtre Alphonse Desjardins, ensuite à Québec 5 et 6 juin au Grand Théâtre de Québec, à Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Agathe-des-Monts, et un spectacle qui reçoit d'excellentes critiques. Alors, je la salue officiellement en bonne et due forme, Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, et cofondatrice, dis-je bien, du projet Intercom. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Hélène.
Ça me fait plaisir de vous recevoir de nouveau. Alors, aujourd'hui, le sujet de votre chronique numéro 52, déjà.
Oui, ça va vraiment vite.
Sur le plan, à couteau tiré, la croissance du fossé idéologique entre jeunes hommes et jeunes femmes. D'où vous est venue l'inspiration pour cette chronique, Roxane?
En fait, j'ai préparé cette chronique avec Clémence Normandeau, une étudiante au bac en psychologie à l'Université de Montréal. Puis elle a écouté un documentaire, le documentaire Alpha, qui a été réalisé l'an dernier par Simon Coutu. Puis elle a été frappée par une remarque qui a été faite par Samuel Vessière, qui est anthropologue et scientifique cognitif affilié à l'Université McGill puis à l'UQAM. Selon lui, la génération Z, soit les jeunes hommes adolescents et adultes en bas de 30 ans seraient aux prises avec une polarisation idéologique croissante, donc entre les hommes et les femmes. Et on a voulu pousser la question un peu plus loin.
Quand vous faites référence à ce fossé idéologique entre jeunes hommes et jeunes femmes, de quoi vous parlez exactement?
Mais traditionnellement, on observait un écart idéologique politique entre les genres, donc dans les pays occidentaux, où les femmes se positionnaient plus à droite dans le continuum d'idéologie politique que les hommes. Donc, depuis les années 80, dans plusieurs de ces pays, cette tendance s'est renversée pour devenir ce qu'on appelle l'écart moderne des genres, donc avec les femmes penchant plus vers la gauche que les hommes. Et ceci est particulièrement vrai pour les jeunes entre 18 et 30 ans. Ce qui rend cet écart intéressant, c'est qu'il serait plus prononcé au sein des pays ayant la plus grande égalité entre les genres.
Ah.
Ouais, par exemple, ça s'observe au sein de 18 pays européens, aux États-Unis, en Chine, en Tunisie, en Corée du Sud. Évidemment, l'écart varie d'un pays à l'autre, mais cet écart-là est présent, puis est particulièrement plus prononcé en Corée du Sud et aux États-Unis, où les jeunes femmes seraient 30 % plus libérales que les hommes du même âge. Donc, l'écart est souvent là. Parfois, il est un petit peu plus faible, mais parfois, il est quand même assez prononcé. Même si on sait que les jeunes femmes tendent à se positionner plus à gauche que leurs homologues masculins, la recherche demeure quand même divisée en lien à la position idéologique des jeunes hommes. Donc, certains auteurs affirment que ceux-ci deviennent de plus en plus conservateurs, alors que d'autres parlent qu'ils restent plus stables ou bien qu'ils progressent plus lentement vers la gauche que les jeunes femmes.
Qu'est-ce qui explique, Roxane, cette divergence entre jeunes hommes et les jeunes femmes?
Donc, afin de répondre à cette question, je vais d'abord commencer par considérer les explications qui sous-tendent la tendance observée chez les femmes, puis après chez les hommes. Donc, il y a des chercheurs qui avancent une hypothèse qui concerne la progression des jeunes femmes vers la gauche politique. Ils se réfèrent au paradoxe de Tocqueville, donc selon lequel, au fur et à mesure que l'écart entre la situation actuelle et l'égalité sociale absolue se réduit, donc il y a de plus en plus d'égalité, les disparités encore présentes deviennent de plus en plus saillantes et susceptibles d'être critiquées. Donc, plus l'écart se rétrécit, plus c'est critiqué. Ainsi, plusieurs sociétés progressent vers l'égalité des sexes. Donc, il y a des sphères, évidemment, qui traînent de la patte et ces sphères-là sont de plus en plus frustrantes pour les jeunes femmes. Donc, ils sont plus susceptibles de percevoir de la discrimination et que de voir que c'est un problème de société. Donc, les jeunes femmes se rangeraient donc de plus en plus du côté socialiste pour militer pour l'égalité des sexes. Pour les jeunes hommes, la tendance qui est observée, donc, c'est soit une progression vers la droite politique ou bien une progression moins rapide que les femmes vers la gauche politique. Donc, le phénomène est un peu plus complexe pour les hommes. Tout d'abord, on se rappelle qu'avec le progrès vers l'égalité des genres vient aussi un taux d'éducation croissant chez les femmes. Donc, aujourd'hui, la proportion de jeunes femmes qui détiennent un diplôme universitaire de premier cycle au Canada a surpassé celle des jeunes hommes. Les jeunes hommes sont aussi significativement plus à risque de moins bien performer sur le plan académique. Donc, il est possible que cette sous-performance académique vienne nuire à leur mobilité ascendante vers des postes d'importance, etc. Donc, cette présence croissante des femmes sur le marché du travail pourrait aussi amplifier une compétition qui pourrait être perçue comme une menace là, par certains jeunes hommes. Donc, au sein des pays riches et démocratiques, ces hommes sont plus susceptibles de percevoir cette compétition et, comme je le disais plus tôt, de voir une menace à leur carrière. Donc, c'est ça. Puis l'égalité des genres dans une société est grande, plus les femmes y sont susceptibles de rivaliser avec les hommes pour l'obtention de positions, donc avoir plus de pouvoir, des postes plus importants, et puis ça peut faire plus réagir. Puis évidemment, il y a l'opinion publique, les médias qui peuvent s'en mêler et amplifier les tensions entre les genres. Donc, ce segment de la sous-population des jeunes hommes qui se positionne à l'extrême droite influence la moyenne globale des hommes, de sorte qu'elle semble progresser moins rapidement vers la gauche que les femmes dans certains pays et progresser même vers la droite dans d'autres pays. Et tout ça, ça souligne une perspective qu'on appelle, ou que certains scientifiques appellent une perspective de jeu à somme nulle.
Jeu à somme nulle, c'est quoi exactement?
J'ai fait exprès. Je voulais me faire poser la question. Donc, le jeu à somme nulle, c'est une perspective qui s'applique à divers contextes. C'est pas juste dans les relations hommes-femmes. Donc, selon laquelle il existe une quantité limitée de ressources. Donc, tout gain obtenu par une personne ou un groupe va nécessairement être une perte pour l'autre. L'autre personne ou l'autre groupe. Donc, appliqué aux gens, ça fait référence à la perception que toute hausse de statut et baisse de discrimination, par exemple envers les femmes, mène nécessairement à une perte de statut et à une hausse de discrimination envers les hommes, bon, et vice-versa.
Bon, alors Roxane, c'est un peu décourageant tout ça, mais est-ce qu'il existe des solutions ou à tout le moins des pistes de solutions pour contrer cette tendance?
Évidemment, il y en a beaucoup, mais je vais vous en mentionner deux ici. Premièrement, la recherche montre que les amitiés mixtes, c'est-à-dire qu'on mélange les hommes et les femmes, favorisent le développement d'une attitude qui est plus égalitaire à l'égard des rôles de genre chez les jeunes hommes, adolescents, et aussi des attitudes plus positives envers le genre opposé, et ça tant pour les filles que pour les garçons. Aussi, dans notre laboratoire, par exemple, on a développé un atelier qui s'intitule la communication bienveillante, qui est fondé sur des principes de communication non violente de Marshall Rosenberg. Dans ces ateliers, puis il y en a plusieurs qui existent évidemment de ce type, les participants prennent part à un anti-débat qui consiste à partager leur point de vue, qui est souvent polarisé ou polarisant, mais le but, c'est de mieux écouter l'autre et de s'assurer de bien le comprendre au lieu de gagner ce fameux débat. Donc, on donne des outils concrets pour aider les jeunes à se parler, même quand on est fortement en désaccord.
Merci beaucoup, Roxane. On se retrouve en avril.
Oui, merci. Au revoir.
Bye. Budget 2026-2027, six choses à savoir. Hugo Pilon-Larose dans la presse. Discipline, le retour à l'équilibre budgétaire exigera de la discipline, prévient Éric Girard. Le budget 2026-2027 prévoit un déficit de 8,6 milliards de dollars. Le ministre des Finances affirme qu'il évite les cadeaux préélectoraux et les promesses frivoles, un choix délibéré à l'approche des élections. En santé, avec la croissance, dis-je bien, démographique et le vieillissement de la population, la pression est forte sur le réseau de la santé et elle va continuer d'augmenter. Le budget prévoit 2,2 milliards de dollars sur 5 ans, dont 811,5 millions pour consolider l'offre de soins dans le réseau public, 756,2 millions pour l'accès aux médicaments et 200 millions pour réduire la liste d'attente en chirurgie. Depuis septembre 2022, le nombre de personnes en attente d'une opération depuis plus d'un an a diminué de 80 %. Une somme de 164,8 millions de dollars sur 5 ans est aussi prévue pour renforcer l'accès à la première ligne. Le budget prévoit aussi 264 millions sur 5 ans pour aider les personnes en situation d'itinérance. Éric Girard, maintenant, École et culture, rectifie le tir et maintient le financement du programme La culture à l'école en prévoyant 119 millions sur 5 ans pour conserver l'intégralité des sorties scolaires en milieu culturel. Alléluia, ça c'est moi qui le dis, je ne suis pas la seule non plus. PQI, pour la 8e année consécutive, les sommes prévues au plan québécois des infrastructures sont à la hausse. Elles sont passées de 100,4 milliards de dollars en 2018 à 167 milliards cette année. Le gouvernement explique cette augmentation par les besoins urgents pour maintenir le parc existant en bon état et pour combler l'important déficit d'entretien. Parmi les travaux urgents et réclamés, notons que la construction du nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, dont les travaux préparatoires se poursuivent, ne commenceront pas cette année. Le gouvernement qui a entendu l'appel à l'aide du secteur de l'audiovisuel et des télédiffuseurs privés. Il prévoit 280,4 millions de dollars sur 5 ans pour les aider, dont la bonification des sommes accordées à la Société de développement des entreprises culturelles destinées à la production de contenus d'envergure propice à l'exportation. Et violence conjugale dans le contexte où des féminicides ont une fois de plus secoué le Québec depuis le début de l'année. Québec investit 260,3 millions de dollars sur 5 ans pour augmenter le soutien financier aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, renouveler le plan d'action pour la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs et poursuivre le déploiement du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales, entre autres. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je rigole parce que Mathieu puis moi, on se parle. On se parle en dehors du micro et au micro. Merci Mathieu. Merci à vous. Ici Hélène Denis. À bientôt.
Vous écoutez La Voix de l'inclusion. Suivez aussi l'actualité de Canal M à l'adresse facebook.com/CanalMRadio.
Ici Denis-Martin Chabot, j'anime L'heure où l'arc-en-ciel se lève, la première émission de langue française sur les réalités et les enjeux de la diversité sexuelle et de genre, lundi 17h, mardi 21h et vendredi 13h.
Salut, c'est Clotilde Say et cette semaine, des livres pas faciles mais essentiels. Le calvaire de Gisèle Pellicot qui nous offre malgré tout et la joie de vivre. Celui d'Ingrid Falaise qui illustre pour nous le cauchemar des filles mères dans les années 60. Philippe Besson nous fait état de l'incompréhension qui entoure encore le drame des mômes persécutés dans les cours d'école. Et à Paris, la réalité d'une jeune Algérienne différente, un livre audio et un film, La Petite Dernière.
Des livres plein les oreilles, le jeudi à midi, en rediffusion à 19h.
Ici Richard Côte-Bélanger. Chaque semaine, je vous attends à L'Homme en noir, le samedi à 10h, en rediffusion le vendredi à 6h et à 21h, émission dans laquelle je vous offre une sélection des meilleures chansons country et folk qui racontent des histoires qui nous font chaud au cœur.
Yvan, vous et moi, on prend plaisir à faire ensemble de grandes entrevues. Mais dit comme ça, là, c'est un peu réducteur.
C'est une conversation ouverte et sans complaisance avec des personnes déterminées, persévérantes et résilientes, vivant avec un handicap ou certaines limites.
D'ailleurs, ça s'appelle « Au-delà des limites », une invitation d'Yvan Deslauriers et Francine Forget.
« Au-delà des limites », mardi à midi, en rediffusion à 19h et le dimanche à 23h.
Il est 11h et vous écoutez Canal M à la télé numérique et sur vusezvoix.com. Bon avant-midi.